Deutsche Welle, Économie et développement.
La crise économique, un terme d'actualité du Tchad à la Turquie. N'Djamena, qui s'est lancée dans l'exploitation du pétrole en 2003, semble avoir tout misé sur l'or noir. Or, depuis la chute du prix du baril, le pays n'arrive pas à faire face. Et de récents propos du président Idriss Déby ne sont pas de nature à rassurer. Et puis nous ferons le point sur la situation économique en Turquie, en pleine incertitude politique. Un changement de constitution voulu par le président Erdogan est en marche. Vous écoutez le magazine Économie et Développement, Claire-Marie Kostmann au micro, bienvenue. Il y a un mois, le président Idriss Déby s'exprimait devant les responsables des partis alliés, un discours qui continue de susciter des réactions. La déclaration a été interdite de diffusion dans les médias publics, mais elle s'est retrouvée sur Internet. Idriss Déby a indiqué que la crise financière que traverse le Tchad est liée d'une part à la chute du prix du baril de pétrole, mais également à la masse salariale qui, selon lui, est très élevée. Écoutez les explications de Darius Tonblaise, notre correspondant à N'Djamena.
La masse salariale tchadienne est de 8 milliards de francs CFA par mois en 2002. Propos du président Idriss Déby Itno dans un document audio que s'est procuré la Deutsche Welle. Mais c'est le contraire après l'entrée du Tchad en octobre 2003 dans le cercle des pays producteurs et exportateurs de pétrole. Aujourd'hui, cette masse salariale avoisine 50 milliards de francs CFA. Depuis la chute du prix du baril de pétrole, le Tchad peine à répondre aux besoins de ses salariés. Cet argument ne convainc pas l'économiste Dr Antoine Dujidinga.
À un moment donné, le gouvernement a cédé certaines régies financières aux particuliers, comme la délivrance des passeports, la délivrance des permis de conduire, la délivrance des cartes nationales d'identité, etc. etc. Or, ces recettes devraient venir compléter donc les ressources publiques hors pétrole. Le deuxième facteur interne, c'est la corruption qui a pris son ampleur au cours de la période sous exploitation de pétrole. Et même les plus hautes autorités sont intervenues plusieurs fois pour dire arrêtez de voler. Donc il y a eu des détournements massifs et ces détournements ont coûté cher au trésor public.
Faisant une comparaison entre le Tchad et le Cameroun, Idriss Déby Itno a souhaité que le SMIC, qui était de 60 000 francs CFA, équivalent de 90 euros, soit revu en baisse à 30 000 francs CFA, à environ 45 euros. Pour l'économiste, c'est une fausse comparaison que fait Idriss Déby Itno.
Le Cameroun est un pays qui a une économie très diversifiée, où il y a des petites unités industrielles et autres. C'est un pays côtier également qui a profité de son port, non seulement parce que les marchandises viennent directement et les coûts sont faibles, mais aussi parce que le port a servi de transit à beaucoup d'autres pays, dont le Tchad. Effectivement, la situation du Cameroun ne peut pas être comparée à celle du Tchad. D'abord par la structure même de l'économie camerounaise. Le coût de vie au Cameroun n'est pas le même que celui du Tchad. Avec 50 000 francs au Cameroun, un étudiant ou bien une famille avec 150 000 peuvent vivre correctement au Cameroun. Le salaire devrait être indexé sur le pouvoir d'achat, sur l'indice de prix. On sait qu'au Tchad, il y a eu beaucoup de spéculation sur les prix, de sorte que aujourd'hui, un fonctionnaire qui gagne même 400-500 000 ne peut pas vivre aisément et correctement de son revenu.
Une opinion partagée par l'ancien Premier ministre Joseph Dimrangar Dadnadi, basculé dans le rang de l'opposition et candidat à la présidentielle d'avril 2016.
Le Tchad n'était pas le meilleur pays en Afrique et dans le monde. On a fait un effort pour que la situation sociale des gens soit le moins mauvais possible. Donc on a fait des progrès et ces progrès-là, on ne doit pas les remettre en cause. Et si ça ne marche pas, il faut chercher les causes loin. Quand on a vu un peu d'argent de pétrole, il y en a qui sont mis à manger plus que les autres. Il y avait un problème d'ordre éthique. Je ne pense pas que le Tchad ait un niveau de dépenses publiques en disproportion par rapport à son PIB, par rapport à ce que je sais. Quand on est parti au Mali, le FMI a dit « Votre intervention au Mali, ça coûte au moins 120 milliards ». Mais nous disons non. Nous sommes très indisciplinés, c'est ça.
Des propos qui ont irrité plus d'un travailleur. Gounou Vaïma Ganfare, secrétaire général de l'Union des syndicats du Tchad, UST.
Ce que le président dit, ce n'est pas correct. Parce que le SMIC, c'est le président de lui-même qui a fait une déclaration pour donner 60 000 francs. Oui. Le syndicat simplement s'est saisi de sa déclaration pour demander sa formalisation. On avait laissé l'économie dans la main de certaines personnes qui ont augmenté les prix. Donc, le coût de vie était devenu plus cher. Et sans cette augmentation, personne ne pouvait bien vivre. Ne serait-ce que même acheter de mille, ainsi de suite, et tout ça. Le gouvernement travaille pour sa population. Si sa population n'est pas à l'aise, c'est là où tout le problème vient. Donc, il faut penser beaucoup plus à mettre sa population à l'aise avant de prendre une décision.
Selon une source contactée par la Deutsche Welle, le Tchad doit une faramineuse somme de 700 milliards de francs CFA à la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC. Et la tâche ne s'annonce pas facile pour le remboursement car tous les créanciers récupèrent leur argent à la source sur tous les fonds à destination du Tchad. Darius Ton Blaise, en Diaménan pour la Deutsche Welle.
Toujours à l'écoute du magazine Économie et Développement. Augmentation du chômage, crise de confiance des investisseurs, ralentissement de la croissance, perte de valeur de la monnaie nationale, la livre. Le tableau est noir en Turquie sur fond d'instabilité sécuritaire et politique. Parmi les secteurs les plus en difficulté se trouvent le tourisme, mais aussi les exportations de produits agroalimentaires vers la Russie à cause de sanctions de la part de Moscou. Les relations entre les deux pays se sont depuis réchauffées, vous l'entendrez. Le secteur manufacturier et le bâtiment sont aussi mis à mal. Autant de signes d'un climat difficile en Turquie, nous dit Denise Ounal. Elle est économiste au CEPI, un centre de recherche et d'expertise sur l'économie mondiale.
Ce qui est important en Turquie, à cause du climat politique, des difficultés démocratiques, c'est l'ensemble des secteurs qui sont entrés en difficulté en raison d'un problème de confiance à l'économie et à la gouvernance économique.
Les investisseurs étrangers, ils regardent la Turquie d'un mauvais œil en ce moment. Ils ont des craintes.
Absolument. C'est d'autant plus important que la Turquie est un pays vraiment globalisé. Il a une économie très ouverte sur l'extérieur, par exemple en Turquie, donc c'est depuis 1989 qu'il y a eu la libéralisation des capitaux, ce qui induit tout de suite une interdépendance avec le reste du monde. Dans ce cadre-là, dans un pays aussi qui manque beaucoup d'épargne, la venue des investissements étrangers dans le pays est essentielle. En plus, il y a maintenant des meilleurs taux d'intérêt aux États-Unis, comme tous les pays en voie de développement qui recevaient les capitaux étrangers pendant qu'il y avait des taux très bas et aux États-Unis et en Europe, maintenant sont en danger, mais la Turquie est encore plus en danger. Et quand vous regardez justement par rapport aux autres pays émergents, actuellement la Turquie en souffre beaucoup plus.
Il y a aussi le problème de la monnaie. La monnaie qui a perdu beaucoup de sa valeur, ça aussi, j'imagine, ça joue sur le climat économique du pays.
Absolument. Et c'est dépendant de ce qu'on vient de parler. Plus donc on manque de confiance à la gouvernance de la Turquie, plus sa monnaie se détériore. Donc parce qu'on pense en même temps comment les entreprises privées turques, qui sont très endettées, actuellement, la Turquie a un endettement de 220 milliards de dollars. Quand on voit l'endettement privé de la Turquie, c'est 220 milliards de dollars. Et comment les entreprises vont pouvoir payer cette dette qui est souvent libellée en dollars américains? On entre dans un cercle un peu vicieux. Plus donc on manque de confiance, moins on investit dans ce pays, la monnaie se détériore. Et puis, on ne voit pas de voie de sortie, si ce n'est que politique, si on pouvait avoir une assurance politique sur l'avenir du pays.
Mais justement, sur le plan politique, il y a ce référendum à venir sur la révision constitutionnelle. Est-ce que le climat économique difficile, aussi le taux de chômage qui augmente aussi, est-ce que ça peut jouer sur ce vote?
En fait, la Turquie garde encore un potentiel très très important. Mais comme on disait, puisque l'avenir paraît tellement illisible qu'il est difficile de se prononcer. En revanche, est-ce que la détérioration de la situation économique peut aller, par exemple, peut être défavorables au référendum pour le changement du régime, hein, parce qu'avec le référendum, les Turcs vont vraiment accepter que le régime devient présidentiel et Tayyip Erdogan reste encore longtemps au pouvoir, lui et les siens par la suite. Alors, est-ce que ça va être défavorable? C'est plus compliqué parce qu'on n'est plus aux considérations économiques, hélas, en Turquie. On est tellement polarisé entre les électeurs qui soutiennent coûte que coûte le pouvoir actuel et les autres qui sont dans l'opposition. J'ai comme impression que les considérations économiques restent très en deçà de l'enjeu.
On a l'impression maintenant que la Russie et la Turquie alors, se sont rapprochées aussi sur le sujet syrien, mais aussi au niveau économique, elles se sont rapprochées. Voilà, il y a cette histoire de contrat de construction du gazoduc Turk Stream et aussi une future centrale nucléaire avec des réacteurs russes. Est-ce que le salut économique viendra de la Russie?
Il faut considérer d'une manière plus large et considérer l'Eurasie pour la Turquie. La Turquie essaie de vraiment activer ses relations et avec la Russie et avec la Chine et d'autres pays asiatiques. Donc on est dans un axe, là aussi c'est assez incertain, illisible, mais de la même manière que pour tout ce qui est sécuritaire, militaire, il peut y avoir des changements. Ça paraît comme si c'était impossible, mais on est dans une ère ou même au niveau des grandes puissances, on voit des changements très importants, pourquoi pas pour la Turquie.
C'était l'économiste Denise Ounal. Et si vous voulez réentendre ce magazine, rendez-vous sur notre site dw.com/français, rubrique médiathèque. Je vous quitte avec le groupe d'Istanbul Babazoula. Merci pour votre écoute. Au revoir et à la semaine prochaine.